J'aimerais que vous tourniez avec moi dans 2 Rois, chapitre 6. Nous allons étudier 1 Pierre 5, versets 5 à 11, mais pour nous mettre dans le contexte du message de ce matin, j'aimerais que nous lisions d'abord 2 Rois, chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 15. Le serviteur de Élisée, qui était appelé l'homme de Dieu, le serviteur de Élisée, se leva de bon matin pour sortir de la ville et il vit qu'une troupe cernait la ville avec des chevaux et des chars. Il dit alors à Élisée, à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Élisée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis, verset 17, Élisée pria l'Éternel, « Ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chars, pleine de chevaux, et de chars de feu tout autour d'Élisée. Le roi de Syrie était irrité du fait qu'il ne pouvait planifier aucune attaque contre le roi d'Israël sans que le roi le sache. Et il a compris que c'était Élisée qui révélait au roi les plans au roi d'Israël, les plans du roi de Syrie, parce que Dieu informait le prophète. Alors, il a envoyé des troupes pour capturer Élisée. Et c'est ce contexte-là où on retrouve le serviteur d'Élisée qui dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Lui, il voyait des choses avec une perception naturelle. Et Élisée lui dit, attends, il y a autre chose que la perception naturelle, il y a une perception spirituelle, et je demande à Dieu qu'il te permette de voir les choses sous un angle spirituel. Et Élisée et le serviteur a vu des anges, la puissance de Dieu sous cette forme-là. Alors ma prière pour nous aujourd'hui, c'est que les échanges qu'on va avoir tout le long du mois sur 1 Pierre chapitre 5, particulièrement ce que j'appelle la grande finale de 1 Pierre, versets 5 à 11, qui a été lu ce matin, que je vais relire dans un instant. J'aimerais que Dieu utilise ça dans nos vies pour nous aider à voir les choses sans perdre de vue la dimension spirituelle. Et je vais appeler ça plus tard, il y en a qui sont peut-être parmi vous moins habitués à la terminologie, je vais appeler ça une vision du monde. Est-ce que le monde se limite à ce que l'on voit ou est-ce que le monde inclut une dimension spirituelle? Et ma prière, c'est que Dieu nous aide à avoir véritablement une vue du monde qui est chrétienne et qui intègre donc un Dieu personnel qui s'occupe de nous et qui est puissant et qui agit comme tout notre culte de ce matin qu'on contribuait à nous informer. Le texte, je vais lire le texte, 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 11. « De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité. » Car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Je vais revenir encore sur ces textes-là qu'on a déjà lus. La grande finale de 1 Pierre que constituent ces versets nous rappelle de la place occupée par trois catégories d'intervenants dans chacune de nos difficultés. Il y a nous et les gens qui s'opposent à nous ou avec qui nous collaborons. Première catégorie d'intervenants, ce qu'on voit dans l'Église, dans la société, au travail. Le contexte d'un Pierre, je crois, que supporte bien tous ces contextes-là, dans l'Église et partout. Mais deuxièmement, il y a aussi un puissant ennemi de nature spirituelle, opposé à Dieu et opposé à nous. Un ennemi qui résiste contre tout ce qui est bien, contre tout ce que Dieu veut. Et une troisième catégorie d'intervenants, c'est Dieu et ses anges et toute la sphère spirituelle qui est sous son contrôle ultime et constant, malgré les apparences occasionnelles. Nous avons un allié plus puissant encore que l'ennemi, en la personne de notre Père Céleste, de son Fils Jésus-Christ, de son Esprit qui agit en nous. C'est là ce que nous examinerons de plus près ce matin, sous forme de trois lignes de questionnement. Un, quel rôle occupe notre ennemi dans nos rapports avec autrui, dans nos situations de vie, dans ce que nous tentons d'accomplir? Deux, que fait Dieu pour nous, pour les nôtres, en faveur de ceux avec qui nous collaborons? Que fait Dieu contre notre ennemi? Qui est l'ennemi? Est-ce que l'ennemi, c'est vraiment des fois la personne devant nous, ou si vraiment c'est jamais la personne devant nous, mais une puissance qui combat contre tous les êtres humains? Troisième ligne de questionnement, quelle est notre place, notre rôle, quelle est notre fonction, quelle est notre responsabilité dans toutes les situations de vie auxquelles nous participons dans ce contexte où il y a Dieu et où il y a un ennemi qui s'oppose à Dieu et à tous ceux que Dieu aime. Ce que le diable est, ce qu'il est, le type d'être qu'il est et ce qu'il fait contre nous. J'aimerais revenir sur le verset 8. Dans 2 Pierre, je vais ouvrir ma Bible dans ce passage-là. 2 Pierre, chapitre 5, verset 8. Ce verset va nous aider à réfléchir au rôle de notre ennemi dans nos rapports avec autrui, dans nos situations de vie et dans tout ce que nous tentons d'accomplir pour Dieu. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, débute en disant qu'il est notre adversaire, l'ennemi de Dieu et de tous ceux que Dieu aime. Le texte dit « Votre adversaire, le diable, rôde. » Alors, la deuxième aspect que l'on apprend concernant le diable ou que nous rappelle ce passage, c'est qu'il rôde cherchant à identifier ses proies. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Selon une note de Alfred Quinn dans La Parole vivante pour 1 Pierre 5, 8, il nous dit « Le lion rugit pour intimider sa proie. Il fait fonction de rabatteur, la bête traquée s'enfuit et tombe sous les pattes de quelques lionnes embusquées plus loin. » Alors moi, pour moi, ça évoque l'image que tu résistes à quelque chose et puis tout à coup, tu te fais surprendre par un autre piège, tu ne tombes pas dedans, tout d'un coup, tu te fais surprendre par un autre piège et là, oups, tu tombes. Alors, il faut être sur nos gardes pour ne pas chuter. L'image du lion, nous dit un autre commentateur, l'image du lion rugissant qui rôde évoque aussi une activité incessante pour détruire ceux qui croient, en particulier pour attaquer et détruire leur foi. Le diable, il est aussi celui qui accuse ceux qui aiment Dieu. Je tire ça de Apocalypse 12, verset 10, dont on a lu tantôt un peu le contexte. Il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs. celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. » Alors, quand vous vous dites « Je suis un bon à rien, spirituellement ou autrement », demandez-vous si cette pensée-là est supportée par une vision du monde chrétienne ou par un ennemi qui cherche à vous décourager. Celui, le diable, il est aussi décrit comme étant celui qui égare toute la terre. Je trouve que dans l'époque où on vit présentement, il y a, on dirait, une puissance d'égarement extraordinaire derrière les actes de cruauté à propos desquels on priait tout à l'heure. Le diable, nous dit Jésus dans Jean 8, 48, a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Le diable est aussi celui qui élabore des complots contre tous les êtres humains que Dieu a créés. Éphésiens 6, 11 nous parle des manœuvres du diable. Éphésiens 6, 12 nous dit « En effet, ce n'est pas contre l'homme ou contre la chair et le sang, mais dans le second 21, on dit « Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Le diable, encore, est celui qui parfois rugit, parfois sourit, pour mieux séduire. 2 Corinthiens 11, 4 nous dit « Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Toujours il tente de s'opposer à Dieu, toujours il tente de s'opposer à nous. Constamment il cherche parmi les humains ceux dont il peut faire sa proie. Sans cesse il cherche parmi les chrétiens ceux dont il peut détruire la foi. Et il cherche à aveugler les gens qui ne croient pas également. Le diable, il existe. Il est là. Mais Dieu est plus grand et il existe aussi. Et alors, j'aimerais prendre un moment pour nous rappeler ce que Dieu est et ce qu'il fait pour nous. Qui est Dieu? Il est le propriétaire des lieux. Il est le bâtisseur à l'origine de tout. Le psaume 24 qui a été lu tout à l'heure débute au verset 1 avec « C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. » À ce titre de propriétaire des lieux et de bâtisseur à l'origine de tout, Dieu mérite notre respect, notre soumission, notre adoration. Le psaume 24, versets 7 et 9, que nous avons lu tout à l'heure, nous dit « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire. » Psaume 24, 7 à 11. Ou, selon les mots de la grande finale de 1 Pierre, au verset 11, Pierre nous dit « À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. » Donc, on a l'image d'un Dieu puissant. Notre culte d'adoration a mis l'accent beaucoup sur ça, en prenant certains des mêmes passages. Mais notre Dieu est aussi un Dieu à qui on peut s'approcher dans l'intimité. Et je trouve dans 1 Pierre, verset 3, par exemple, un texte qui dit « Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau. » Au 1 Pierre, chapitre 2, verset 3, il dit « Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Ce dernier extrait de 1 Pierre est cité du psaume 34, verset 9, qui dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon ». J'aimerais que l'on écoute ce que David, dans le contexte de cet extrait du psaume 34, nous dit concernant qui Dieu est pour ceux qui aiment Dieu et qui mettent en lui leur confiance. Écoutons comment David relate l'expérience qu'il a de Dieu. Je cite 34, versets 5 à 11. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Je vois l'intimité de la relation entre Dieu et nous. Revenons à ce que Pierre nous apprend de qui est Dieu pour nous. En 1 Pierre 2, 25, Pierre nous dit « Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. » On est dans l'intimité. Maintenant que nous avons vu qui est Dieu, j'aimerais qu'on regarde ce qu'il fait pour nous. Toujours dans le contexte de garder en tête que nous sommes dans un univers personnel avec un adversaire qu'on a pris un petit peu de temps pour décrire, mais avec un allié, notre créateur, qu'on prend un peu plus de temps pour s'y attarder. Il nous comble de grâce et nous réserve de gloire, et nous réserve la gloire. 1 Pierre 5, 10. Il dit, le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Avant de poursuivre son encouragement aux chrétiens pour leur situation immédiate, Pierre leur rappelle ce que Dieu a fait d'eux et vers quoi ils se dirigent, vers la gloire. Cette gloire éternelle qui est la nôtre parce que nous appartenons à Christ n'a rien à voir avec nos qualités personnelles. Je ne suis pas sûr qu'on le comprend toujours. La gloire éternelle qui est la nôtre parce que nous appartenons à Christ n'a rien à voir avec nos qualités personnelles ou avec les mérites acquis, si on le sait, par nos choix. Mais des fois, on ne sait pas parce qu'on se dit, ben, je me suis converti. Non. Oui, mais non. Oui, mais non. La gloire éternelle, c'est très mystérieux, mais ce n'est pas nous. Puis nos côtés qui nous découragent ou nos côtés qui nous encouragent, ça n'a rien à voir. La gloire éternelle, elle vient par Christ, à travers qui nous avons accès à cette gloire éternelle. Alors, elle a tout à voir avec la source de grâce. C'est d'ailleurs ce que Pierre nous disait déjà au tout début de son épître. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Par son appel, Dieu ne se limite pas à nous délivrer du péché, mais il nous invite à tourner notre regard vers sa gloire éternelle comme un nouveau but. Cette gloire dénote, en la résumant, ce que Dieu a en réserve pour nous. Ce thème de la gloire éternelle est central pour encourager les chrétiens dans leurs épreuves du moment présent. Et on le retrouve à plusieurs endroits dans 1 Pierre. Il nous comble de grâce et nous réserve la gloire au sein de la souffrance. 1 Pierre 5:10, après que vous aurez souffert un peu de temps. La souffrance est pour un peu de temps. La gloire à venir est éternelle. Ce contraste insiste sur la nature transitoire des difficultés vécues maintenant par les chrétiens par opposition à la nature durable de la gloire à venir. Ensuite, ce que Dieu fait, il nous rétablit, il nous relève, il nous forme, il nous perfectionne lui-même. Je vais vous lire 1 Pierre 5:10. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. C'est ce que Dieu fait pour nous. En somme, pour revenir un peu sur ce même concept-là, Dieu nous rétablira ou nous perfectionnera. Dans vos petits groupes, vous allez voir qu'il y a deux types de façons de traduire une partie du verset. Ce faisant, il nous affermira pour que nous ne bronchions pas, mais que nous soyons affermis en lui. Il nous donnera la force de faire face aux tentations et à la souffrance. Il nous rendra inébranlables dans notre détermination à vivre pour lui et en lui. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas persévérer dans les pires épreuves. J'ai déjà pensé un petit peu le contraire. Mais en lui, nous n'avons pas à craindre de nous écrouler devant la souffrance. En lui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les souffrances, les persécutions, les tentations, en lui, oui, hors lui, non. Voilà l'assurance en Dieu sur laquelle sont fondées les attitudes et actions exigées de nous dans cette grande finale que constitue 1 Pierre chapitre 5, versets 5 à 11, où il nous dit que nous devons avoir une attitude d'humilité. Versets 5 et 6, « De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens et vous soumettant tous les uns aux autres. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. » Une autre attitude, c'est la confiance en Dieu, qui prend soin de nous. Ce sont nos responsabilités. Nous avons vu qui était le diable et comment il fonctionne. Que fait Dieu pour nous? Mais nous devons rester humbles et faire confiance à Dieu, être sobre et poser deux actions que je vois dans ce texte-là, être vigilant et être résistant, résister au diable, avec aussi une attitude d'adoration. Alors, le texte dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » L'attitude de confiance, on est encouragé à cela. Soyez sobre, la sobriété, restez vigilant, la vigilance, une action. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Soyez sobre, résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Attitude d'adoration, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je la vois implicitement qui nous encourage vers ça. Que nous faisons, okay, donc là on est dans notre position, notre positionnement, notre responsabilité, ce qui nous appartient dans ce contexte où il y a Dieu qui contrôle tout et où il y a le diable qui parfois nous donne l'impression de contrôler tout et souvent nous donne l'impression de ne pas être là du tout, puis on voit l'ennemi en avant de nous, on voit l'ennemi dans l'autre personne, ça là, c'est pas le fond de la chose. Notre responsabilité, selon ma compréhension, et là je replace 1 Pierre, cette grande finale de 1 Pierre, je la replace dans le contexte du chapitre 5, qui, et je vais lire pour éviter de dépasser mon temps, le contexte immédiat, 1 Pierre chapitre 5, les anciens et les membres de l'Église, les rapports les uns avec les autres, le contexte immédiat nous enseigne les attitudes à adopter entre nous au sein même de l'Église. L'Église locale, les dénominations, les grandes organisations chrétiennes, je trouve qu'on peut trouver dans 1 Pierre 5 des principes adaptables à tous les contextes où nous sommes en collaboration les uns avec les autres. Le contexte immédiat nous enseigne les attitudes à adopter entre nous au sein même de l'Église. L'ensemble de l'Épître, les chapitres 1 à 5, nous sert de guide sur la manière d'agir dans divers autres rapports sociaux, avec les non-croyants, avec nos patrons, avec nos employés, avec nos conjoints. Nos attitudes et nos actions découlent de qui nous sommes en Christ, et l'Épître de Pierre peut nous enseigner sur ça. Alors, je reprends sous un autre angle un peu, là. La grande finale de 1 Pierre 5, versets 5 à 11, répond à la question « Pourquoi les attitudes réciproques adoptées par les membres et les dirigeants d'une communauté de foi sont-elles à considérer à la lumière des facteurs visibles ou perceptibles ou naturels et des facteurs invisibles, spirituels, qui agissent avec puissance dans nos vies, dans les différentes circonstances. Autrement dit, la grande finale de 1 Pierre nous dit pourquoi considérer qu'il y a plus que ce que l'on voit dans les relations entre dirigeants et dirigeants dans une église ou dans une organisation chrétienne, entre dirigeants et membres, entre membres et dirigeants, et entre membres et membres d'une église ou d'une organisation chrétienne. Ce faisant, elle nous invite à agir envers autrui en tenant compte des réalités spirituelles. L'ennemi n'est pas le frère ou la sœur devant moi. Il y a autre chose. L'ennemi n'est pas mon conjoint, mon patron, mon politicien, mon premier ministre, mon deuxième ministre, comme dirait Isaac, mon petit-fils. Et l'ensemble de l'Épître, quant à elle, répond à la question « Pourquoi nos attitudes envers qui que ce soit sont-elles à considérer à travers ces mêmes lunettes spirituelles qui font que l'on ne voit pas que les choses naturelles, mais que l'on voit les dimensions spirituelles présentes aussi ?» Autrement dit, la grande finale de 1 Pierre nous explique « Pourquoi considérer qu'il y a plus que ce que l'on voit dans les relations entre nous et nos collègues détenant le même degré d'autorité que nous, au travail, dans la société, dans notre famille, entre nous et ceux qui relèvent de notre autorité. Pourquoi voir plus? Parce qu'il y a des dimensions spirituelles, même si ce n'est pas évident. Dans ces sphères de vie et d'engagement que sont la société, le travail, la famille, alors, dans tous les types de relations, que nous soyons en position haute ou en autorité, ou en position basse et en position de soumission, l'Épître de Pierre, la grande finale de l'Épître de Pierre, m'encourage à voir qu'il y a les dimensions spirituelles à ne pas perdre de vue. Quand je pense au contexte général de la Bible et de Genèse à l'Apocalypse, parce que là, je trouve que 1 Pierre 5, versets 5 à 11, c'est comme un peu l'Apocalypse vis-à-vis de l'ensemble de la Bible. C'est comme, on voit, je vais revenir à mes notes. C'est peut-être une bonne idée, ça n'en est peut-être pas une, je ne sais pas, là. Moi, ça va être plate, je vais me répéter, mais au moins je vais finir à temps. Quand je pense au contexte général de la Bible dans son ensemble, je pose une troisième question. La vision du monde sur la base de laquelle nous interagissons avec nos semblables dans tous les contextes identifiés par les deux autres questions que j'ai posées tantôt, est-ce que cette vision du monde-là est chrétienne ou séculière? Est-ce que notre vision du monde dans l'Église, est-ce chrétienne ou séculière? Est-ce qu'on voit juste les situations ou si on voit Dieu derrière? Alors ça, c'est... Considérant 1 Pierre 5, 5 à 11 comme la grande finale de 1 Pierre, son effet est le même que celui de l'Apocalypse pour toute la Bible. Elle nous rappelle que tout ce qui a été dit jusque-là s'inscrit non pas dans un univers sans but, régi par des lois impersonnelles, mais dans un univers personnel dirigé par un Dieu bienveillant. D'où ma question, la vision du monde sur la base de laquelle nous interagissons avec qui que ce soit est-elle chrétienne ou séculière? Une vision du monde séculière voit ce qui se voit. Un homme, une femme, un enfant, des marques d'amour et de générosité. Lorsqu'une personne malade prend soin d'une personne plus malade encore, il y avait tellement de gens malades cette semaine qu'il y en a dû en avoir des malades qui prenaient soin de d'autres malades. Ou lorsque une vision séculière du monde voit ça, une vision séculière du monde voit aussi des indices d'insensibilité ou d'égoïsme lorsque les besoins d'autrui sont ignorés. Mais une vision chrétienne voit ce qui se voit comme le fait une vision séculière, mais elle voit l'homme, elle voit la femme, elle voit l'enfant, elle voit les faits. Mais elle va plus loin que le monde visible et englobe le monde invisible. La personne qui a une vision du monde chrétienne se laisse imprégner des récits et enseignements de la Bible qui nous permettent de voir que nous vivons dans un univers qui n'est pas impersonnel, qui n'est pas régi par des lois sans considération de... On appelle ça personnaliste. L'univers de la Bible, c'est un univers personnaliste, le terme technique. C'est-à-dire un univers dans lequel les êtres humains doivent composer avec une dimension invisible à l'œil naturel. Il y a nous, il y a le diable et les siens, il y a Dieu et ses anges. Hébreux 1, 14. Les anges sont des serviteurs de Dieu envoyés auprès de ceux qui doivent hériter du salut. Ça existe? 2 Rois 6, 16. Qu'est-ce qu'Élisée a vu? Sinon des anges. Hein? Donc, il y a Dieu, mais il y a toute une multitude de serviteurs de Dieu qui sont des serviteurs spirituels de Dieu, qui sont des anges. À la fin de chaque tension, conflit et bataille où nous sommes engagés dans l'univers visible, existe pour tous ceux qui font confiance à Dieu, victoire, triomphe, honneur, parfois durant notre vie sur terre, parfois dans notre vie à venir. De plus, la paix et le bonheur peuvent être vécus au milieu même des pires situations si nous nous en remettons à Dieu pour tout ce qui arrive. Ce que j'ai entendu un matin, moi, me donnait l'impression que la paix était là, malgré les épreuves qui étaient partagées. Lorsque la conscience de cette réalité nous échappe, que Dieu est présent, qu'on a un ennemi et qu'il y a nous au milieu de tout ça. Lorsque la conscience de cette réalité nous échappe, même si nous sommes chrétiens, la vision du monde sur la base de laquelle nous interagissons avec tous nos semblables est séculière plutôt que chrétienne. Or, si nous perdons de vue que nous vivons dans un univers où le diable s'oppose à Dieu, où le diable s'oppose à tous ceux qui aiment Dieu et veulent le servir, ainsi qu'à tous ceux que Dieu a créés, nous devenons plus vulnérables aux attaques de celui contre qui Dieu nous protège. Prions que Dieu préserve et nourrisse en nous une juste vision du monde. Prions qu'il nourrisse notre capacité de lui faire pleinement confiance. Merci.